Bienvenue à ce premier discours. L'intention de ces moments, en fait, de ces temps où je parle de ma compréhension de la méditation, de la spiritualité, où j'essaye, en fait, de donner un sens ou une perspective sur ce qu'on fait ici, une manière d'avoir un regard, en fait, sur ce qui est proposé ici, sur ce qu'on vient vivre. Et c'est toujours très intéressant pour moi, en fait, de préparer ces discours et d'essayer de sentir qu'est-ce qui va être utile, de quoi est-ce qu'il serait bon de parler ou aller faire en partie de ma pratique aussi. Là, j'ai été inspiré par un ou deux des histoires. Je lis des histoires de Rumi et donc j'ai été inspiré par une ou deux histoires. Je vais vous en lire un passage de la première. Et peut-être on peut prendre le temps, prenez le temps en fait de voir ce que vous y entendez à cette histoire, qu'est-ce que vous en comprenez en fait vous-même. Et puis après ça, je développerai un petit peu ce que moi j'y entends. Et ça peut être quelque chose de très différent. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas pour ça qu'il y en a un qui est juste et l'autre qui est faux. Il y a tellement de choses à entendre dans une histoire, à la manière dont on va l'interpréter, on peut comprendre des choses, et puis quelqu'un d'autre va venir et donner une toute autre interprétation qui sera aussi peut-être, on l'espère, assez intéressante, mais c'est pas forcément qu'il y a une interprétation qui est juste. Plus de vin pour moi. J'ai cessé de me délecter du rouge épais, comme du blanc léger. J'ai soif de mon propre sang. De le voir se lancer dans le champ de l'action. Tire la lame la plus fine en ta possession et frappe-moi jusqu'à ce que ma tête vole loin de mon corps. Fais une montagne de mon crâne. Mets-moi en pièces. Ne t'arrête pas à mes cris. N'écoute rien de ce que je pourrais dire. Je dois m'enfoncer jusqu'au cœur du feu. Pour moi, j'ai entendu une métaphore de quelque chose que je vis, qui me parle de mon expérience, en fait, de ma relation à la manière d'être heureux, à la manière d'aller chercher le bonheur. Plus de vin pour moi. J'ai cessé de me délecter du rouge épais comme du blanc léger. J'ai soif de mon propre sang. Pour moi, ça me parle de cette envie que je connais, de quelque chose qu'on pourrait appeler un appel des profondeurs, hein, une envie en fait de cesser de dépendre de satisfaction extérieure pour trouver une quiétude intérieure. Le rouge épais, le blanc léger, c'est toutes ces manières qu'on a tous d'aller chercher un moment de satisfaction, d'aller chercher le ah. On se pose avec ça, ou on s'offre ça, ou on s'achète ça, ou on reçoit un compliment, ah. Cette manière d'être dépendant, en fait, de l'extérieur et de ce qu'on va pouvoir acquérir, posséder pour un moment, ce qu'on va pouvoir utiliser pour trouver cette sensation de satiété, de satisfaction. J'ai soif de mon propre sang. Et ce désir, en fait, ce désir qui, je pense, est le désir qui nous a tous amenés ici quelque part, mais on n'en est pas forcément conscient. Le désir, en fait, de trouver une autre manière d'être dans cette vie, une autre manière de trouver la quiétude et de nouveau la satisfaction. Une autre manière qui est une manière intérieure, c'est mon propre sang. Ce n'est plus aller chercher à l'extérieur, c'est trouver en moi une satisfaction qui ne dépend plus de si je peux avoir ceci ou cela. Et quelque part, c'est le thème de cette retraite. C'est On est dans cette retraite. Déjà, le mot retraite le dit bien, hein. On est en retrait, en fait. On est en retrait de nos habitudes. On est en retrait de nos manières habituelles d'aller chercher des satisfactions. On n'a plus ces manières. Ceux d'entre vous qui, par exemple, passent beaucoup de temps peut-être sur les réseaux et tout ça, ben, il n'y a plus les manières de manger, d'aller chercher les petits plaisirs ou le petit café ou le petit croissant du matin ou quoi que ce soit, en fait. Ces petites choses qu'on rajoute dans notre journée parce qu'elles nous font, c'est ce moment-là qu'on se pose et qu'on se sent posé, qui sont c'est ces moments qui sont si agréables pour nous. Et là, on est en retraite de ça. On n'a plus ça. On est aussi en retraite de toutes nos manières habituelles, bien sûr, de manger, mais aussi de relationner. Parce qu'il y a aussi beaucoup dans la relation où on va aller chercher dans la relation un type de regard, un type de contact. Et là, de nouveau, ça, on n'a plus. Plein de choses, en fait. Peut-être tout le monde, je vois des têtes, des têtes qui hochent, et peut-être tout le monde, en fait, peut, en prenant quelques secondes, sentir, ah oui, moi, pour avoir un certain niveau de bonheur dans ma journée, eh bien, j'ai tous ces petits trucs, ces petites choses que je vais chercher. Et le niveau de bonheur descend et hop, je vais relancer avec un petit truc. Et le niveau de bonheur redescend un petit peu après, hop, je vais le relancer avec un petit truc. Ça vient sous forme de désir et puis je me fais plaisir. C'est ça le vin rouge et le vin blanc. C'est tout ça. Et là, Rumi, ce qu'il nous dit, c'est plus de vin pour moi. J'ai soif de mon propre sang. Je veux trouver cette satisfaction dedans. Je veux la chercher à l'intérieur. Je ne veux plus aller l'acquérir à l'extérieur. Je ne veux plus dépendre. Il y a cette notion de combat qu'on entend. On entend là. C'est très fort. Il y a quelque chose de guerrier. Il y a quelque chose de tire ton épée, coupe ma tête. Il y a vraiment quelque chose de coupe ma tête, pour moi, c'est cette partie de moi, en fait, qui constamment veut plus, veut plus, veut plus, veut plus. Coupe la tête de ça. C'est pas, et souvent on trouve ça dans Rumi, il y a quelque chose qui, il n'y a pas tout le temps de la douceur. Parfois, il y a l'attitude du guerrier. Il y a la nécessité du combat, il y a la nécessité du frontal. Il réfère souvent, en fait, Rumi. Et nous, déjà, dans une retraite comme ceci, on en vit, et je pense que c'est intéressant de le rendre conscient. Et je suis sûr que on en vit tous, ou pratiquement tous, face à, par exemple, un endroit où il y a des combats, plus ou moins petits. Ça va être, par exemple, la possibilité d'aller chercher quelques noisettes en plus. Il y a un endroit où on a mis, si vous êtes en hippo, vous pouvez prendre une demi-pomme, quelques noisettes et des abricots secs. Donc ils sont là. Hein, on a notre nourriture qui est assez rationnée. Et puis, il y a ça qui est là. Ben peut-être vous l'avez remarqué, cette tendance cette envie qui est là d'aller en reprendre un peu plus, ou même quand on se sert de prendre un peu plus que ce qui est noté sur les quantités. Ah, c'est déjà ça en fait le combat, c'est déjà là en fait. C'est déjà là, c'est aller chercher à l'extérieur cette sensation de satisfaction. La notion de combat, c'est la notion de dire non, de lâcher. Lâcher le désir, ne pas se laisser être le jouet du désir. Donc remarquez-les, les combats, et voyez s'il est possible de les mener. Et d'avoir quelque chose à l'intérieur de ferme. De simplement dire non. À moins que vous soyez en hippo, ça c'est autre chose, bien sûr. À ce moment-là, allez-y, franco. Mais juste quand ça vient, et on le sait d'où ça vient. D'un petit peu d'ennui, de cette sensation un peu d'avoir faim, qui est pas grave du tout, hein, pas grave du tout, c'est juste une sensation. Hein. Mais très vite on a l'envie de la combler, et puis il y a justement ces abricots secs qui en plus sont délicieux. mais comme un jeu de mener, de prendre ces combats. Dans cette tradition, donc, Rumi s'adresse à la vie, parfois il l'appelle la vie, parfois il l'appelle Dieu. Il lui dit, ne t'arrête pas à mes cris. Quand on prend une décision et puis que finalement à l'intérieur ça dit, non, mais en fait non, je crois que, bon finalement, oh ben juste une fois, ah ben, et puis deux abricots secs, franchement c'est pas la mort. Hein, et quand ça commence à marchander dedans et vous voyez, tout ça, il dit, ne t'arrête pas à mes cris. N'écoute pas ce que je pourrais dire. Je dois m'enfoncer jusqu'au cœur du feu. Parce que ce qu'on cherche, cette satisfaction qu'on cherche, c'est pas la même. Ce n'est pas la même satisfaction que les satisfactions qu'on va pouvoir acquérir à travers l'utilisation de choses extérieures ou à travers le fait de devenir quelqu'un. C'est autre chose. La satisfaction, c'est une satisfaction spirituelle. Le livre de Rumi parle de spiritualité. C'est une satisfaction spirituelle. Ce n'est pas de même nature que la satisfaction qu'on acquiert à travers la consommation, à travers le fait d'acquérir, à travers le fait de posséder, à travers le fait de devenir. C'est d'autres choses. Il s'agit de complètement autre chose. C'est vraiment important en fait de peu à peu le ressentir ça. Que c'est tout autre chose. La satisfaction qu'on va découvrir à ne plus être le jouet de nos désirs sera différente de juste cette sensation de « Ah !» Un autre passage d'un texte de Rumi. Les habitants de Kasbah ont pour coutume porte-bonheur de se faire tatouer à l'encre bleue le dos de la main, l'épaule ou toute autre partie du corps. Un homme de là-bas va chez le barbier et lui demande de lui tatouer sur l'omoplate un lion bleu, puissant et hardi. Et faites-moi quelque chose qui ait beaucoup de panache. Moi, j'ai le lion en ascendant, je veux beaucoup de bleu. Mais dès que l'aiguille commence à le titiller, il se met à hurler. « Que faites-vous ? » ?»« Bah, le lion. »« Ah, et vous avez commencé par quelle patte ?»« J'ai commencé par la queue. »« Bon, oubliez la queue du lion. Son arrière-train sera mal placé, à mon avis, il va me gêner pour péter. » Le barbier reprend son travail et aussitôt, l'homme se met à brailler. « Ouh ! Vous en êtes où ?»« L'oreille. » Écoutez, docteur, pour une fois, on va faire un lion sans oreille. Le tatoueur secoue la tête et ça recommence. Aiguille, hurlement. Où en êtes-vous maintenant ? Le ventre. Je voudrais un lion sans ventre. L'artiste, dessinateur de lion, reste un moment les yeux au ciel et finalement repose définitivement l'aiguille. Personne ne m'a jamais demandé une chose pareille. Créer un lion sans queue, sans tête et sans ventre, même Dieu lui-même ne le pourrait pas. Ô mon frère, apprends d'abord à supporter la douleur. Fuis le poison de tes impulsions. Si tu y parviens, le ciel s'inclinera devant ta beauté. Apprends à allumer tôt la chandelle. Lève-toi avec le soleil. Éloigne-toi de l'antre de ton sommeil. C'est ainsi que d'une épine naît une rose. C'est ainsi que le particulier rejoint l'universel. Et quand j'ai lu celle-là, elle aussi, elle m'a parlé. Elle m'a parlé de mon chemin spirituel, elle m'a parlé de comment, en fait, même quand je suis parti en Inde, que tout feu, tout flamme, en fait, je me suis lancé dans tout un tas de directions de recherche spirituelle. Et certaines en allant dans certaines extrêmes de retraite solitaire et des périodes de célibat. Enfin, j'ai exploré en fait tout un tas de domaines. Mais en fait, il y a des domaines que j'ai pas du tout explorés. Par exemple, le domaine de la relation au corps, la santé, l'alimentation, c'était pas du tout là dans ma spiritualité. C'était complètement absent. Tout dans ma pratique de méditation, tout dans cette séduction pour trouver cet espace dans lequel rien de moi n'apparaît, cet espace, cet endroit de tranquillité, tout enflammé par les différentes philosophies que j'apprenais et qui m'ouvraient l'esprit à des choses nouvelles. Mais il y avait des endroits où c'était comme cet homme en fait. Ben non, finalement, on va pas faire les oreilles. Eh ben, les endroits où c'était où il y avait du défi, les endroits où pour moi c'était plus difficile, il restait comme un angle mort, blind spot, un endroit qui n'est pas vu. Et en fait, je m'engageais pleinement dans tout un tas de directions de pour le poussé par mon envie de mieux me connaître et de libération, quelle que soit la manière dont on le formule. Mais en fait, il y a des choses que je laissais de côté. Et on fait tous ça, et c'est normal en fait. Il n'y a pas besoin de se flageller, c'est normal. Mais il y a tous des choses, les endroits qui sont difficiles, on a tendance à se construire des histoires pour les éviter. Comme cet homme qui veut, il veut un lion, il veut le courage du lion, il veut la dignité, il veut l'autonomie. Mais, ok, il est d'accord de se passer des oreilles parce que ça fait mal à cet endroit-là. Donc il va faire un lion mais sans oreilles. Et puis il y a d'autres endroits, la queue, oh bah on fera un lion sans queue. Et dans la spiritualité, ça nous pend toujours au nez, et il faut qu'on y regarde, et peu à peu, il faut qu'on rouvre des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller. Et c'est là qu'il y a cette notion de combat. Et il y a des manières d'aborder la spiritualité qui sont des complets évitements, en fait, de tout ce qui est difficile pour nous. Et alors, on construit une philosophie, en fait, qui explique. Je me rappelle par exemple moi de j'ai beaucoup étudié l'Advaita, la non-dualité indienne, et ça a été et c'est toujours une grande grande source d'inspiration, mais c'était aussi pour moi une fuite parce que dans la non-dualité il n'y a pas d'emphase sur l'existence du corps par exemple, hein, c'est il y a un peu une notion d'illusoire et donc de moins il y a une espèce de hiérarchie en fait. Il y a dans la hiérarchie, il y a cet espace de conscience ultime qui est la réalité ultime, et le reste apparaît et disparaît dans cet espace de conscience, et du coup n'a pas quelque part grande importance. Et on entend beaucoup ça dans des discours de spiritualité, n'a pas grande importance, ce côté illusoire, éphémère, transient. Et du coup, moi, ça m'allait bien, moi qui n'avais pas envie de fumer, moi d'arrêter de fumer, et moi qui ne prenais pas spécialement soin de mon corps. En plus, moi, j'avais 30 ans, ça allait bien, j'avais pas besoin. Et donc, c'est tout cet aspect, en fait, que le Bouddha lui a compris très rapidement, puisque lui, très vite, il a cherché d'abord à tuer le désir, donc à aller aux endroits où c'était difficile, et puis après ça, à trouver cet équilibre. Et on est peu à peu d'accord de se construire un chemin en tant qu'individu, en évitant certaines zones parce qu'elles nous semblent trop difficiles ou trop douloureuses. Et ici, dans une retraite comme celle-ci, à un moment, on vient faire face. On vient faire face à l'absence de tout ce qui, d'habitude, sont nos petites manières d'être heureux. À la fin de l'histoire que je lisais, donc le tatoueur dit à l'homme douillet, c'est ainsi que d'une épine naît une rose. C'est ainsi que le particulier rejoint l'universel. Deux belles phrases. C'est ainsi que l'épine devient rose. Et quelque part, ça peut, je pense, nous parler à tous de cet incommensurable potentiel qu'il y a en chacun de nous et de comment il va venir fleurir ou pas. Est-ce qu'on va trouver la manière de laisser fleurir ce qui profondément est déjà en nous? Et ça va dépendre aussi de si on est d'accord de prendre les combats ou pas. Ça me faisait penser à la notion de s'accepter, qui est une notion difficile, l'acceptation. Et je pense que l'acceptation, c'est accepter que là où on en est maintenant, c'est notre point de départ. Mais s'accepter ne veut pas dire être d'accord et rester comme on est. Il peut y avoir une notion très molle, en fait, dans le fait de s'accepter. Oh, voilà, je reprends un peu, bah, voilà, et puis je m'accepte comme je suis, j'ai ces tendances-là et je m'accepte. Et dans tous nos travers, on s'accepte et on apprend à s'accepter avec tous nos travers. Et avec tout, en fait, ce qui peu à peu nous abîme aussi. Et on apprend à accepter ça. Je suis pas sûr que ça soit ça, s'accepter. Pour moi, c'est accepter là où on en est maintenant, sans aucun conflit. Et de là, commencer à rouvrir et à mener les combats qu'on doit mener avec le courage nécessaire. Les hauts et les bas, bien sûr. Mais pas s'accepter, genre renoncer. Alors, je suis comme je suis. Parce que je pense qu'on a vraiment, en chacun de nous, il y a un potentiel incommensurable. Il y a vraiment, on entend souvent cette image du trésor, de joyau. Mais c'est là, on n'a aucune, on n'imagine pas ce qu'on peut devenir si on marche ce chemin de, d'avoir suffisamment, j'ai envie de dire suffisamment de foi. Ce mot, il est compliqué, mais suffisamment de cette confiance énorme dans le fait que en nous, il y a une sagesse immense, il y a quelque chose de magnifique qui peut s'ouvrir et qui peut être offert au monde, et de là commencer les petits pas, et ne pas arrêter les petits pas. Avoir de la tolérance, oui, mais pas jusqu'au point de ne jamais confronter nos fermetures. Dans un des deux textes, le barbier tatoueur dit, Dieu lui-même ne pourrait pas créer un lion sans ventre, sans oreilles et sans queue. Et de la même manière, cette nature qui est notre force, qui est notre identité profonde, ne peut pas créer un individu qui a la rayonnance et la vie d'un lion, si des zones de notre vie ne sont jamais, on n'accepte pas quelque part la douleur de s'ouvrir à elle, par peur. Et si c'est ce qu'on fait? Tous, vous êtes inscrits à un stage où on va manger très peu et où on va, de nouveau, comme je le disais, avoir très peu accès à nos manières habituelles d'être heureux. Ça, c'est accepter le combat. Et ce qui est intéressant, je trouve, moi, c'est quelque chose aussi en moi qui m'intéresse énormément et qui m'interpelle, c'est qu'une grande partie de ce combat, c'est pas de faire quelque chose, c'est juste d'arrêter de faire quelque chose. C'est laisser du vide, c'est laisser de l'espace, c'est du non-faire. C'est renoncer. C'est renoncer à cette tasse de café. C'est renoncer à plonger sur le téléphone dès qu'il y a 2 secondes de vide. C'est renoncer à tout ce qu'on fait d'habitude et qui n'a pas vraiment de sens. Surtout ce qu'on fait d'habitude qui n'a pas vraiment de sens et en plus qui nous fait du tort. Et en général, en plus, ce qui nous fait du tort fera du tort autour de nous. En tout cas, à force de se faire du tort, on est d'une manière qui crée aussi des tensions autour de nous. On est aussi dans un type de consommation qui est problématique pour la planète. Donc, on n'est plus en lien avec une éthique profonde. Donc, dans ce combat, il y a une notion, en fait, pas de faire plus de choses, mais de renoncer à faire des choses qu'on a pris l'habitude de faire et dont on dépend. Et c'est ça, là, il faut du courage parce que on a vraiment la sensation qu'on en dépend. Mais on ne trouvera pas autre chose si on n'est pas capable de lâcher ça. On continuera à dépendre de ça et du coup on ne dépendra pas d'autre chose. On ne se reliera pas à quelque chose de plus profond, à une satisfaction plus profonde que cette permanente satisfaction des petites choses. Et ce besoin tout le temps de se satisfaire nous agite énormément. Ça pose énormément de problèmes. La nécessité de tout le temps aller chercher de la satisfaction pour être heureux, d'une satisfaction extérieure pour être heureux, est, on pourrait dire, la source de toute souffrance. C'est pour ça que, au nom de cette satisfaction, on va trop manger ou mal manger, par exemple, hein. On va aller vers des aliments qui sont pas forcément bons pour notre santé, mais qui ont beaucoup de goût, des goûts forts. Très salé, très sucré, On va aller peut-être vers la cigarette. On va aller vers investir énormément d'énergie dans la sexualité. Et déséquilibrer peut-être la relation avec notre partenaire avec trop de demandes ou alors une multitude de partenaires. Quoi de plus agitant que de tout le temps être en recherche parce qu'on a ce besoin en fait pour être heureux d'avoir suffisamment de relations sexuelles. Ou la nécessité d'être vu comme étant quelqu'un et tout ce qu'on va faire pour être vu comme étant quelqu'un. Tout ce qu'on va mettre en place pour que les autres nous voient d'une certaine manière. Multitude de choses dans notre journée, multitude de choses qui nous agitent constamment, qui nous met en mouvement, en fait. Vers quelque chose, et puis après ça, ça, et puis après ça, ça, et puis après ça, ça, et puis après il y a ça, et puis après il y a ça. Et on est au paroxysme dans notre monde occidental actuel. On est au paroxysme de ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué en Inde, surtout dans les montagnes, dans l'Himalaya, mais un peu partout. C'est cette capacité qu'ont les gens d'être là et de ne rien faire. Et que ça ne soit pas un problème. Même des gamins. Là où je faisais les retraites solitaires dans les montagnes, il y a eu des moments où j'allais dans des villages et je voyais, il y avait même un garde forestier qui de temps en temps me rendait visite. Deux fois il est venu avec son fils, il est resté, je sais pas, 1 heure ou 2, et son fils il est resté là, il avait 10 années. Il n'avait pas un portable, il n'avait pas, et à aucun moment il disait papa je m'ennuie, est-ce qu'on y va? Ou il avait déjà cette facilité à juste être là sans avoir besoin de quelque chose pour besoin qu'il se passe quelque chose. Nous on a énormément besoin qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Comme si on n'était pas vivant s'il se passe rien. Et quand il se passe quelque chose, ça nous fait vivre des émotions. Et du coup, oh, ça brasse des émotions, des émotions, des émotions, des émotions. On s'en sort plus, on se noie dans nos émotions, on se noie dans nos actions. Et c'est aussi au niveau d'une société très toute cette action toujours, parce que ça frotte à gauche, ça frotte à droite, il y a relationnellement, en fait, d'être tout le temps en action, d'être tout le temps en demande, d'être tout le temps en besoin, besoin des autres, en demande sur la planète, en demande, c'est pas viable en fait. Pour arriver à s'apaiser, il va aussi falloir renoncer. Et c'est ce qu'on pratique en méditation aussi. Quand on est assis en méditation, dès qu'il y a un moment de tranquillité, il va y avoir peut-être assez vite une nouvelle pensée qui va venir et qui va suggérer un univers. Hein, dans notre attention va rentrer un univers. Une pensée nous amène dans une expérience, en fait. Et assez vite, on va être séduit par cette expérience et on va partir à un monde secret. Dans notre esprit, subitement, il y a là, il y a notre voisin, il y a des choses qui se sont passées, tout ça, il y a tout un univers, il y a un univers émotionnel intérieur qui est créé aussi, un moment. Et puis, ce qu'on apprend, en fait, quand on le voit, c'est à lâcher. C'est lâcher ce monde. C'est lâcher cette activité pour revenir à rien. Au vide. Alors, on va revenir à la respiration, c'est presque rien. Pas follement excitant, la respiration. L'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. Il se passe pas grand-chose, mais ça pose. Ça pose. Mais aussi, ce qu'on lâche, du coup, on lâche pas simplement l'excitation d'une aventure émotionnelle quelconque, parce que c'est toutes des aventures émotionnelles, en fait. On ne lâche pas simplement l'excitation d'une aventure émotionnelle quelconque, on lâche aussi la construction de toute notre identité. Parce que la construction de l'identité, elle se fait dans ces moments-là, où, perdu dans notre esprit, on discute avec un tel, on se demande comment un tel, ce qu'il va penser de ça, ou on réfléchit à ce qu'on aurait dû dire dans tel conflit, ou alors on se projette dans ce qu'on voudrait faire, à tout, 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 en fait, tout ça est construction, maintenant, de cette énorme machine qui est l'identité, tout ça prend énormément d'attention et d'espace mental. Gros stockage d'informations. Et là, en méditation, en fait, on accepte de renoncer
à la construction de l'identité.
Et ce que Rumi nous dit aussi dans ce texte que j'ai lu, il dit, c'est ainsi que le particulier rejoint l'universel. C'est ainsi que, en méditation, de quelqu'un, on devient personne. On est juste là. On n'est plus une personne qui est là. On n'est plus une identité très construite avec toute une histoire, avec tout un tas de problématiques et de désirs, de choses. Tout ça, c'est posé. Et c'est ainsi que du particulier, parce que notre monde à chacun, quand la pensée est active et crée tout cet immense tableau du jeu, on est tous très très différents. On est tous extrêmement différents, parce qu'on a nos histoires spécifiques, on a nos désirs spécifiques, on a nos peurs spécifiques, on est tellement, tellement particulier. Mais quand cette histoire n'est plus encouragée, parce qu'on ne lui donne plus notre attention, et on l'a vu, si on ne donne plus notre attention, l'histoire n'est plus encouragée, et du coup elle disparaît de notre expérience. Et ce qui reste de notre expérience est quelque chose de beaucoup plus universel. Si on imagine que nos histoires, à nous tous, pendant quelques secondes en méditation, s'arrêtent, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus activées dans l'espace de notre conscience pendant quelques secondes, l'expérience que nous faisons est une expérience très très similaire les uns des autres. On n'est pas différent. À cet endroit de nous-mêmes, on n'est pas différent. C'est quand il y a nos spécificités qu'on est différent. Et ce que Rumi nous dit donc, c'est que si on cesse de poursuivre l'un après l'autre tous ces petits désirs qui nous stimulent constamment, à ce moment-là, quand on est à la poursuite du désir qui nous stimule constamment, notre identité construite, notre ego, notre jeu est très très fort là. Il y avait nous avec notre désir et on est seul dans notre monde. Et quand on apprend à une maîtrise de ça, c'est ce que Rumi nous explique. Quand on apprend une maîtrise de ça, à ce moment-là, on devient quelque chose se pose et cette dureté de l'identité, cette solidité, cette complexité, cette agitation constante du jeu. Je veux ci, je veux être ça, je veux ça, ça se pose. Et alors, du particulier, on rejoint l'universel, pas simplement en méditation, mais dans le quotidien, dans la manière d'être, dans la manière de vivre. De nouveau, si c'est cette manière-là qu'on a de vivre, alors notre manière de vivre sera beaucoup moins différente d'un hindou, de quelqu'un de n'importe quel autre pays qui lui aussi est posé. Mais marcher dans le monde avec cette maîtrise, c'est dur. Et marcher dans notre monde avec cette maîtrise, c'est très dur. Parce que cette proposition n'existe pas, déjà. La proposition du fait qu'il existe une satisfaction dans la non-consommation n'existe pas. Une satisfaction dans le fait de n'être personne n'existe pas. Et elle est même problématique dans la vision du monde contemporaine. Et donc c'est dur parce que toutes les propositions qu'on va avoir, c'est d'exister et de devenir à travers des propositions. Pourtant, il nous faut trouver des motivations. Il nous faut trouver une motivation. On n'y arrivera pas sans motivation. Et des motivations, il en faut plusieurs. Par exemple, par rapport à l'alimentation, je disais, quelle est la motivation pour venir ici, tout cet aspect de la gestion du désir, de l'alimentation. Il peut y en avoir, ça peut être, pour certains, ça peut être perdre du poids, ça peut déjà être une motivation, elle peut être là chez certains. Ça peut être aussi la conscience que la manière dont on s'alimente est mauvaise pour notre santé. Et du coup, c'est pour être en bonne santé, en fait, qu'on vient ici pour voir si on trouve des inspirations et des manières de s'alimenter différemment. Ça peut être, d'une façon plus générale, pour trouver un certain bien-être. Parce qu'on sent que dans la manière de s'alimenter, avec les sucres, par exemple, qui agitent l'esprit et tout ça, on sent que nos tensions internes aussi sont générées et même notre stress est généré par un type d'alimentation qu'on consomme. Ça peut faire partie aussi de nos motivations. Ça peut aussi être une motivation éthique de se dire, ben, en fait, de savoir que la manière dont on consomme des produits qui viennent de partout dans le monde et à profusion et en quantité et tout ça, en fait, ça épuise. On est en train d'épuiser la planète. On a peut-être cette conscience et que c'est une motivation supplémentaire. Peut-être que vous les avez toutes les motivations que je viens de citer. Et c'est bien parce qu'il nous en faut beaucoup des motivations. Et peut-être, et j'espère, et c'est ça que j'aimerais aspirer par ce discours, c'est aussi que vous avez ou que vous découvrez la motivation spirituelle, qui est encore différente de toutes celles que je viens de citer. Qui est de découvrir en nous quelque chose qu'on ne connaît pas. Qui est de découvrir de nous quelque chose qui nous est complètement inconnu, en fait, qui échappe complètement à notre regard et qui est pourtant si beau. C'est peut-être se mettre en condition de confronter les endroits où on sait qu'on s'abîme pour voir comment on serait si on cessait de s'abîmer. Pour voir ce qui pourrait émerger au travers de nous si on laissait la place. Toutes ces motivations-là, on en a besoin. Et très certainement, au moins, cette dernière de la motivation spirituelle, à mon sens. Cette conscience qu'il y a quelque chose d'absolument fantastique et qu'on vit à côté, parce qu'on n'en a pas justement suffisamment conscience, d'augmenter le feu qui brûle. Parce que cette conscience, je pense, elle a énormément de puissance, et on le voit dans énormément de traditions, là on lisait dans Rumi, mais on va retrouver ça dans toutes les traditions spirituelles. Elle est moteur en fait, cette conscience de l'immensité de ce que nous sommes, et de notre méconnaissance de nous-mêmes. Cette conscience-là, elle est moteur, elle peut nous donner l'énergie, même dans ce monde, de réussir à dire non à un désir qui, nous le savons, bloque l'avènement de quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond de nous-mêmes. Juste, par exemple, l'envie de maigrir ou l'envie de bien-être, je crois que c'est pas une motivation suffisante, surtout de nouveau dans ce contexte, parce qu'on n'est pas dans un contexte porteur. Je pense que c'est pas un moteur suffisant pour avoir le courage de tatouer le lion en entier. Alors, ce que j'espère pendant cette retraite et après cette retraite, c'est que chacun va trouver le courage, en fait. Le courage de dire non. Le courage de faire autrement. Le courage d'être autrement. Le courage de se satisfaire avec moi. Et puiser ce courage dans cette conscience dont je viens de parler. Dans cette conscience qui a grande beauté au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, qui peut s'exprimer à travers nous si on laisse suffisamment de place. C'est pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération, et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.